Et je vais vous donner un exemple. Le marché de poissons de gros à Marseille, le marché de Somaty. Là, on va regarder d'abord les individus, les acheteurs individuels. Et là, vous voyez indiquer la quantité que cet individu-là, monsieur 2668, a acheté à chaque prix. Et c'est le sol qui a acheté. Et vous voyez que mes collègues, qui sont bien formés comme économistes, vous direz tout de suite que ça, c'est évidemment une courbe qui diminue. C'est-à-dire quand le prix est plus élevé, les gens achètent moins. Quand le prix est moins élevé, ils achètent plus. Mais la plupart d'entre nous ont certaines difficultés à voir ça comme une courbe descendante. On ne dirait pas. C'est plutôt presque comme si quelqu'un avait jeté des flèches. Non, parce que ce n'est pas clair que ce soit comme ça. Je vous donne un autre exemple. Ce type-là, pas évident du tout qu'il a une courbe qui diminue avec les prix. Et si on regarde ce marché de près, c'est évident pourquoi. Quelquefois, ils arrivent plus tôt. Ils ne savent pas combien de poissons il y a sur le marché en total. C'est un marché qui n'est pas vente aux enchères, c'est de gré à gré. Donc les gens font des échanges. Ils vendent. Les prix ne sont pas indiqués. Donc il faut aller chez un vendeur pour avoir le prix. On ne sait pas quels sont les prix ce jour-là. Et les gens se connaissent. Si vous êtes propriétaire d'un restaurant à 3 étoiles à Marseille, vous avez des prix différents de quelqu'un qui a un petit stand dans le nord de Marseille. Et donc tout ça, c'est très compliqué. Il y a énormément d'interactions. Et c'est pour ça qu'on voit, quand j'ai essayé de tracer juste quelque chose de très simple, que je ne vois pas énormément de correspondance à la théorie classique. Mais si je commence à agréger ces gens-là, ça c'est pour les sardines par exemple, et j'ai essayé de plotter par exemple maintenant tous les transactions des individus, je fais ce qu'on appelle un fit non paramétrique, on commence à voir exactement ce qu'on doit voir dans la théorie standard, une relation que quand le prix est élevé, peu est acheté, quand le prix est beaucoup plus bas, beaucoup plus est acheté. Donc on commence à voir la bonne relation là. Collectivement, on voit la bonne relation, mais individuellement, c'est pas tout à fait évident. Et si on fait quelque chose que pour les économistes n'est absolument pas catholique, je regroupe tous les poissons ensemble, qu'est-ce que je vois? Une très jolie courbe, soi-disant de demande, qui est exactement comme les économistes prévoient. Mais ce n'est pas dû au fait que chaque individu a une courbe comme ça. C'est dû à l'effet de l'agrégation. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, ce marché s'auto-organise d'une telle façon que les jours où il y a plus de poissons, les prix sont moins élevés et que quand il y a moins de poissons, les prix sont plus élevés. Mais le processus est très compliqué. Mais le résultat est très simple. Donc, le résultat au niveau collectif arrive à correspondre à ce qu'on pense. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez intéressant parce que je vais maintenant passer un petit peu sur le terrain de Marie-Claire, c'est-à-dire sur le terrain des théories des jeux. Mais juste avant, je vous pose un problème très simple qui a été posé par Brian Arthur d'un bar à Santa Fe qui s'appelle le bar d'El Farol. Et là, il y a 100 clients. Et c'est évidemment très simplifié comme exemple. Mais ils aimaient bien aller au bar s'il y avait moins que 60 clients, parce que c'était agréable, c'était convivial, etc. Mais à l'époque, quand il y avait plus de 60 clients, ça commençait à être un peu enfumé, on avait le droit de fumer dans le bar, etc. Donc c'était beaucoup moins agréable. Donc pour simplifier, on dit tout simplement que les gens, si ils prévoyaient qu'il y avait moins que 60, ils y allaient. Et si, par contre, ils prévoyaient plus, ils n'y allaient pas. Question donc simple, chacun décide en fonction de ses prévisions quant au nombre de gens dans le bar. Donc, c'est un problème simple. Donc, une façon de faire, c'est de penser stratégiquement. Mais penser stratégiquement, dans ces cas-là, je viens dans un instant à vous expliquer pourquoi, n'est pas aussi évident que ça. Parce que je dois dire, mais combien de gens vont y aller? Bon, je pense que, à peu près, étant donné ce que j'ai vu, 70. Donc, je ne vais pas y aller. Puis je me dis, mais attends, tous les autres, ils ont aussi vu le passé. Donc, eux, ils vont pas. Ils vont penser que les gens ne vont pas y aller. Donc, il y aura peu de monde. Donc, je vais y aller. Ah, mais attendez, eux, ils sont capables de raisonner comme ça aussi. Donc, ils vont y aller. Donc, je ne vais pas y aller. Etc. Vous voyez que donc, c'est un truc qui est infini. C'est comme vous êtes sur l'autoroute pour aller d'Aix à Marseille et vous voyez que la National 7, il y a peu de gens et vous êtes dans un embouteillage. Donc, vous dites, demain, j'y vais sur la National 7. Puis, il dit, non, mais tous ces gens-là, on est sur la National 7, donc je vais rester. Mais eux aussi, ils vont faire le même raisonnement. Donc, eux, ils vont être tristes. Donc, je vais y aller. Etc. Vous voyez que ce truc est un problème infini. Et le problème, c'est que donc, est-ce que je ne peux pas apprendre quelle est la bonne règle, la bonne prévision en voyant ce qui se passe? Et le problème là, c'est que l'apprentissage, qui est souvent évoqué comme une façon pour les gens de se comporter correctement, est très bien quand on fait l'apprentissage sur un processus qui ne nous implique pas. Mais quand le processus est aussi quelque chose qui est engendré par nous-mêmes, c'est très difficile parce que vous avez à la fois le fait que vous êtes en train de prévoir quelque chose, mais aussi le fait que vous êtes en train de prévoir a une influence sur le résultat. Parce que les gens qui sont en train d'apprendre s'ils vont au bar ou non vont avoir des conséquences. Et donc, c'est illustré peut-être par ça. Vous voyez que le scientifique pense qu'il est en train d'entraîner le rat pour pousser le bouton qui est indiqué « food » parce que, comme ça, il peut entraîner le rat à agir correctement. Mais le rat pense que lui est en train de former le scientifique pour mettre la nourriture dedans quand il pousse le bouton « food ». Donc le rat est en train de dire à son copain « mais je pense qu'il est en train d'apprendre là ». Donc vous voyez, le problème c'est que on ne sait pas qui est en train d'apprendre. Quand vous êtes en train d'apprendre sur une situation où tout le monde autour de vous est aussi en train d'apprendre, ce n'est pas clair si c'est l'environnement ou vous qui êtes en train d'apprendre. Et comme je vous ai dit, une façon de résoudre le problème d'Alfarol, c'est de raisonner d'une façon où je pense à ce que les autres vont faire, mais eux, ils vont penser, etc. Et ça, c'est bien illustré. Ça, c'est ce qu'on appelle en théorie des jeux, le problème de connaissance commune. Mais la première personne qui a discuté de ça assez sérieusement, c'était en 1965, c'était Charles Schulz. Et lui, avant le grand débat intellectuel sur ce sujet, a déjà anticipé ce débat. Et chaque année, je ne sais pas si vous savez, ceux qui ont lu Peanuts dans le temps, c'est que chaque année, Lucy propose de tenir le ballon pour Charlie. Et lui peut aller venir taper dans le ballon pour s'entraîner. Évidemment, chaque année, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève le ballon et Charlie tombe par terre. Donc là, voilà, elle dit, voilà, je te propose, est-ce que je peux t'intéresser dans un petit peu d'entraînement pour kicking off? Et vous voyez l'expression que Charlie a. Et elle dit, mais moi, je vais tenir le ballon, toi, tu viens et tu tapes dans le ballon. Il dit, d'accord. Parce que je sais cette fois-ci ce qu'elle a en tête. Hein. Chaque année, elle joue le même truc. Elle retire le ballon juste au moment où je vais taper dedans. Donc, cette fois-ci, elle sait que je sais, qu'elle sait que je sais, qu'elle sait que je sais, que je sais ce qu'elle va faire. Donc, il a dit, là, je suis loin devant elle. Tout content, il y va. Qu'est-ce qui arrive? Alors, évidemment, comme chaque année, Charlie Brown tombe. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je savais que tu savais que je savais que tu savais que je savais que tu savais, etc. Donc, j'étais obligé de retirer le ballon. Et donc, le pauvre Charlie Brown, elle a fait le raisonnement à N plus 1 étape et elle seulement à N. Si tous les deux étaient vraiment des bonnes théoriciennes de jeu, ils n'auraient jamais décidé quoi que ce soit. Ils seraient toujours en train de raisonner. Mais donc, question, comment est-ce que les gens résolvent ce genre de problème? Quelle est la façon qu'ils peuvent utiliser? Et l'idée de Brian Arthur, c'était de dire, mais je vais faire une petite expérience, je ne pense pas que les gens raisonnent de cette façon-là, stratégique. Ce qu'ils font plutôt, c'est d'essayer d'avoir des règles de prévision pour le nombre de gens qui vont arriver. Étant donné leurs règles, ils vont y aller ou non, s'ils anticipent qu'il y a plus que 60 ou non. Et l'idée que Brian Arthur a eu, c'est d'avoir des petits agents artificiels, et chaque agent avait une règle de prévision, et Il a attribué trois règles à chaque individu et l'individu utilisait la règle qui marchait le mieux, c'est-à-dire qu'il y avait la prévision la plus exacte dans le passé. Donc, exemple des règles qu'il pouvait avoir. Chacun donc avait trois, choisissait la règle qui fonctionnait jusqu'à ce moment-là le meilleur et agissait en fonction. Donc, imaginons qu'il y a eu 39, 65, 51, 55 avant, des jours avant. Donc, quelqu'un pourrait avoir la règle, bon, je vais simplement prévoir le même chiffre que la fois dernière. Et alors là, dans ce cas, il prévoit 55. Un type un peu plus sophistiqué qui a fait économétrie 1, il va dire, ah non, parce que je sais qu'après une période où il y avait beaucoup de monde, il y a beaucoup moins de monde. Donc, je regarde pas la dernière période, mais la période avant, où il y avait 51. Un autre qui a fait économétrie 2, il fait une moyenne sur les quatre dernières périodes, 53. Une autre règle possible, c'est 67. Ça, c'est une règle un peu bête. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, je dis 67. Combien de gens vont venir? Il y avait 1 hier, 67. Il y avait 100 hier, 67. Donc ça, c'est une règle un peu stupide, mais c'est possible que quelqu'un tire cette règle-là. Et donc, l'idée, c'est qu'on donne ces règles aux gens, ils utilisent la meilleure règle qu'ils ont parmi les trois. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Ce qui est assez curieux, c'est que le nombre de clients qui allaient au bar convergeait très rapidement vers 60. Et 60, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash. Personne n'a intérêt à changer ce qu'ils font s'il y a 60 personnes au bar. Ceux qui sont au bar sont contents, mais ils ne veulent pas partir parce qu'ils sont plus contents que chez eux. Et les gens qui sont à la maison ne veulent pas aller au bar parce que dans ce cas-là, il y aura 61, donc ils seront mécontents. Donc ça, c'est un équilibre. Et ce qui est curieux, c'est que quand les gens ont ces règles de prévision qui ne sont pas basées sur le comportement des autres, des règles assez simples, ils convergent collectivement vers la solution théorique du problème. Et ça, c'est assez intéressant. Et ce que ça révèle, encore une fois, c'est le fait que ce n'est pas la rationalité stricte des individus, c'est quand même un genre de coordination sur une solution à un problème. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez souvent les gens qui se trompent systématiquement dans ce système. Mais le système tolère ça dans un certain sens. Vous imaginez le type qui a tiré les trois règles, 67 chaque fois. Lui, chaque fois, il va prévoir 67, il ne va jamais aller au bar. Mais quand même, le nombre qui va au bar est correct, 60. Pas selon sa règle, mais c'est selon l'équilibre. Donc on peut avoir des gens qui se trompent, mais malgré tout, le système, collectivement, arrive à résoudre le problème. Je vous donne un autre exemple. Et Marie-Claire, à quelle heure? Donc, combien?
Il te reste 5 à 10 minutes. Il te reste 5 à 10 minutes.
5 à 10. Tu m'as dit 1h30 au départ.
Oui, c'est juste.
Mais je suis allé pour 1h07 et 59 secondes. D'accord, non.
Le
livre
de Nash, c'est que...
D'accord, ok. J'accélère un petit peu. Je voulais vous montrer un autre exemple dû à un économiste qui s'appelle Schelling. Et cet exemple est assez intéressant parce qu'encore une fois, les gens raisonnent d'une façon très simple. On arrive à un résultat collectif qui n'est pas du tout ce qu'on attend dans le modèle de base, je pense. Et l'idée, c'est que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'idée, c'est simplement que les gens, vous imaginez les gens situés sur un échiquier. Et il y a certaines cases qui sont vides. Et les gens aiment bien être dans une zone, il y a deux couleurs de gens. Dans le temps, quand Schelling a écrit, on disait noir et blanc. Maintenant, ça, c'est pas politiquement correct, donc on dit rouge et vert. Donc, les rouges aiment bien vivre dans une zone où les verts ne sont pas en majorité. Donc, la seule préférence que j'ai, c'est de ne pas être dans une minorité dans mon voisinage. Mais c'est pas du tout que je suis vraiment raciste. J'accepte très bien d'être moitié-moitié, où les gens sont de même couleur que moi. Mais je n'aime pas être dans une zone où je suis en minorité. Donc les gens ne sont pas férocement racistes. Donc L'idée, donc, c'est ici, vous voyez, si les gens autour de moi, il y a moins que 50% qui sont différents de moi, je suis content, ça c'est mon utilité est élevée. Si il y a plus que 50%, mon utilité est plus bas. Et vous pouvez imaginer toutes sortes d'autres possibilités pour leur utilité. Vous pouvez imaginer la ligne bleue, c'est des gens qui sont très contents d'être dans les voisinages mixtes, mais n'aiment pas les voisinages extrêmes, soit avec leur propre couleur, soit avec l'autre. Et donc, quels sont les résultats de ce système? Le petit système, c'est que je prends des gens, je les mets sur le terrain et je regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malheureux, qui est dans une zone où la majorité des gens sont différents de lui? Si c'est le cas, je le prends et je le mets dans une position où il est heureux. Et je continue comme ça. Donc, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de difficulté. Et là, vous voyez, l'idée, c'est que les voisins sont des gens autour. Si vous êtes dans un coin, évidemment, vous n'avez que trois voisins. Mais, encore une fois, l'idée, c'est que je regarde simplement la couleur de mes voisins. Qu'est-ce qui arrive avec ce système? Malgré le fait que les gens ne sont pas extrêmement intolérants, le système est, à la fin, totalement ségrégé. C'est-à-dire que vous avez tous les rouges ensemble et tous les verts ensemble. Là, c'est juste pour illustrer. On a fait quelques mouvements en accord avec ce que je viens de vous dire, et on déplace un certain nombre de gens que vous voyez très rapidement, c'est les verts qui commencent à se regrouper ensemble et les rouges ensemble, malgré le fait qu'ils n'étaient pas très très préjugés. Et donc, voilà les petites opérations que j'ai faites. Je pense qu'à un moment donné, les transparents d'ici vont être disponibles, donc vous pouvez regarder vous-même, mais vous pouvez très facilement jouer à ça. Vous déplacez quelqu'un qui est malheureux dans une situation où il est heureux et vous voyez le résultat. Et ce qui est intéressant ici, donc, c'est, vous voyez, avec l'utilité qui a été sélectionnée par Schelling, vous voyez le résultat en haut. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que quand vous avez des gens qui ont une préférence forte pour être dans les zones mixtes, quand même, vous avez ségrégation. Donc, le même phénomène arrive. Donc, en bas, vous avez, comme les gens, des préférences vraiment pour d'être dans des zones où la population est mixte. Ils préfèrent nettement avoir moitié-moitié. Quand même, vous avez ce phénomène de ségrégation. Et donc, ce qu'on a fait, et là, je vais passer sur les détails, mais il y a quelqu'un qui travaille à Lyon, Pablo Jensen, a travaillé sur la même idée, c'est-à-dire qu'on peut, en réalité, faire une analogie avec un système physique, et c'est un peu comme, plutôt que d'avoir l'utilité pour les individus, vous avez le contraire, l'énergie des particules, l'énergie c'est l'utilité négative, et on peut voir exactement une analogie à ce problème. Mais je n'ai pas le temps, parce que tout d'un coup, pour vous expliquer, mais un système de ce type essaierait de minimiser l'énergie du système. Et la population ici essaie de s'organiser pour maximiser l'utilité. Donc c'est l'analogue l'un des deux. Et là, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais ce qui arrive, c'est que vous voyez, des gens qui se sentent entourés, là dans la zone bleue, en haut à droite, vous voyez que les gens qui sont dans la zone bleue sont un peu entourés par les rouges. Alors ce qui arrive, que le système va essayer d'aplatir ça, pour empêcher les gens d'être entourés comme ça. Donc la frontière entre les deux régions va s'aplatir tout le temps. Et en faisant ça, évidemment, on arrive à la situation où finalement le système est totalement divisé. La seule fois où le système ne va pas faire ça, c'est quand il y a de l'espace libre entre les deux. Quand il y a, par exemple, un parc entre les zones rouges rouge et verte, il n'y aura pas cette pression. Mais en général, il y aura ce système. Donc, je vous montre très rapidement un petit exemple. Et là, on a simplement appliqué les règles avec les rouges et les bleus. On applique les règles que je vous ai suggérées avec 100 par 100. Donc, c'est assez grand comme échiquier. Mais je pense que vous pouvez voir ce qui arrive là. Au fur et à mesure, la frontière entre les deux commence à s'aplatir. Et vous avez cette ségrégation qui se développe très clairement. Donc il y a toutes sortes de versions sur ce modèle, mais on n'a pas le temps de les voir ici. Mais finalement, vous allez avoir ségrégation avec une frontière plate entre les deux. Donc ça va continuer, mais je pense que l'idée est assez claire maintenant. Vous allez avoir une bande au milieu de rouge dans une notion de bleu. Et donc voilà. Donc je. Oups, voilà. Un autre exemple, je vais aller de plus en plus rapidement maintenant, c'est. Non, non, mais j'avais 10 minutes il y a 5 minutes.
Non, non, non.
On arrête à 16 heures. Non, non, mais j'ai pas énormément de choses à faire. Ne vous inquiétez pas.
On produit une analyse du sang, hein, des paquettes.
Oui, oui. Donc, autre exemple pour vous, c'est les marchés financiers. Et là, avec l'hypothèse des marchés efficaces, vous avez l'hypothèse que la seule façon pour les prix des actifs financiers d'évoluer, c'est quand les mouvements sont imprévisibles. Parce que le raisonnement est toujours, si l'avenir était prévisible, tout le monde pouvait agir en fonction, sachant ce qui va arriver, on pouvait prendre une position qui est profitable. Donc la seule possibilité, c'est que les seuls mouvements d'un actif financier sont des mouvements qui ne sont pas prévisibles. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une marche aléatoire. À chaque moment, le mouvement n'est pas prévisible. Et ça peut être autour d'une tendance. Et là, vous voyez, ça, c'était en réalité le DAX, l'indice de la bourse, le DAX en Allemagne, jusqu'à 2000. Et vous voyez, comme on peut imaginer que c'était une marche aléatoire autour d'une tendance. Malheureusement, vous avez ça. Donc ça, il faut expliquer. Et donc, l'explication classique, typique, c'est de dire qu'il y avait un grand choc de l'extérieur qui a provoqué ça. Et donc, typiquement, quand il y a un renversement de tendance comme ça, on dit, mais il y avait des informations importantes qui étaient transmises dans l'économie. Tout le monde a pris ça en compte et donc, le marché s'est retourné. Mais la seule nouvelle information à ce moment-là, c'était que Yeltsin soit est devenu ou soit a cessé d'être président de la Russie à ce moment-là. Et donc, c'est peu probable que c'est ça qui a fait ce grand retournement. C'est ça, c'est la fin du début de Internet, la bulle à ce période-là. Donc, il faut quand même essayer d'expliquer ce phénomène. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de supposer que les agents économiques sont irrationnels. Et le problème, c'est que ce qu'on fait quand on est un individu, c'est qu'on anticipe des choses. Et le problème, c'est qu'on a tendance à conditionner nos anticipations sur les anticipations des autres. Et c'est ça qui complique le modèle. C'est que ce n'est pas que mes anticipations ne sont pas nécessairement intelligentes, mais elles sont conditionnées par ce que les autres pensent aussi. Et c'est ça qui peut engendrer ce genre de mouvement. Et donc, je vais vous essayer de vous montrer un petit exemple. Pourquoi est-ce que c'est possible que tout le monde commence, par exemple, à acheter quelque chose, que tout le monde commence à bouger dans une certaine direction sur le marché financier? Et je vais prendre comme mon exemple, comme avant, les fourmis. Et vous voyez que vous devez imaginer, d'abord, les fourmis cherchent à aller pour trouver la nourriture. Ils se suivent et il y a. La question, c'est sur le marché financier, les gens peuvent avoir des règles pour anticiper les prix. Est-ce que c'est possible que tout le monde converge sur une règle ou non? Bon, regardons d'abord les fourmis. Et là, vous voyez, vous avez là. Oh, j'espère que vous voyez ça. Mais je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a deux chemins vers la nourriture. Et la question, c'est que les deux chemins sont absolument les mêmes en termes de distance. Mais ce qui arrive, à un moment donné, c'est que tous les fourmis convergent sur un chemin. Elles se suivent et s'organisent tel qu'ils sont sur le même chemin. Donc, il y a une tendance là. Il n'y a pas de raison pour ça partir parce que les deux chemins sont les mêmes. Mais ils ont tendance à se concentrer sur le même chemin. Et comme je vous ai dit, ils font ça, typiquement laissant soit une trace de phéromone, soit en recrutant les autres. Par exemple, vous voyez ces deux types-là. Ils se rencontrent, ils donnent un message et puis partent. Bon, tout comme ça, ça donne un message. La nourriture est par ici. Et donc, c'est comme ça que ça marchait, les fourmis. Mais ici, je vais vous montrer un autre exemple. Là, vous voyez deux chemins vers la nourriture. Un chemin plus long et un chemin plus court. Et donc, vous allez voir que ces fourmis, ce sont des vraies fourmis. Hein, ce n'est pas juste des modèles. Hein. Ça, c'est un type qui est perdu. Mais... Et rapidement, vous voyez qu'enfin, ils trouvent tous le chemin le plus court. Très efficace. Mais si vous continuez à faire cette expérience, de temps en temps, ils se concentrent tous sur le chemin le plus long aussi. Donc, malgré le fait que ça serait moins efficace d'un point de vue collectif, de temps en temps, ils se mettent sur ce chemin-là, puis ils reviennent. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec les marchés financiers. Et l'idée, c'est que sur les marchés financiers, vous imaginez que les individus doivent prévoir les prix pour acheter ou vendre. Donc, ils sont obligés de choisir parmi les opinions, les gourous, si vous voulez, ou les règles de prévision existantes. Et soit les gens disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder quelle règle, quel gourou a fonctionné le mieux dans le passé. Donc, je vais utiliser ça. Ou on peut dire, mais je vais aussi regarder ce que les autres ont fait. Qui a eu le plus de succès? Donc, c'est un peu comme les fourmis. Je regarde pas d'une façon très, très intelligente, très sophistiquée. Je regarde simplement ce qui a eu le plus de succès dans le passé. J'ai tendance à suivre ça. Et donc, si on fait avec deux règles possibles, vous imaginez, une règle, c'est de dire... Vous suivez la tendance jusqu'à ce moment. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un chartiste. Vous ne pensez pas aux fondamentaux de l'économie, vous pensez simplement à la tendance sur le marché. Ça, c'est ce qu'on appelle les chartistes. Ou une autre possibilité, c'est de dire, vous regardez les éléments fondamentaux de l'économie et vous faites en fonction. Et donc, les deux règles, vous pouvez mettre dans un marché. Et ce qui arrive, c'est que les règles vont se renforcer. Quand tout le monde commence à être chartiste, c'est-à-dire qu'ils disent, mais on voit que le marché monte, donc j'achète, ce mouvement a tendance à s'auto-renforcer. Parce que quand les gens achètent, le prix monte, etc. Évidemment, à un moment donné, parce qu'il y a toujours un petit élément aléatoire, le mouvement a tendance à se retourner et on tombe vers les fondamentalistes. Mais comme les fourmis, le marché ne reste pas avec les gens divisés entre fondamentalistes et chartistes, c'est soit tous chartistes, soit tous fondamentalistes. Et c'est ça qui est différent du modèle standard, où on aurait un genre de mélange d'opinions au milieu. Donc, quels sont les résultats d'un petit modèle comme ça? C'est que, pendant un certain temps, les prix suivent les fondamentaux, et puis il y a une bulle, et puis la bulle s'éclate, ou ça peut être aussi une bulle négative, et ça remonte. Et donc, c'est loin d'être chemin d'équilibre. Mais avec ce système, ce qu'on voit, c'est que s'il n'y avait pas eu ces gens qui sont des chartistes, on aurait eu une distribution des prix qui est beaucoup plus étroite que la distribution quand il y a des chartistes. Et ça veut dire que les événements qui semblent être, avec la théorie standard, peu probables, sont beaucoup plus probables quand on a ce genre de comportement. Alors, ça veut dire, vous avez entendu peut-être parler d'un bouquin, c'est le signe noir, le Black Swan, où ce qu'on dit essentiellement, c'est qu'on voit trop souvent des phénomènes qui, en principe, doivent être très peu probables. Et c'est, ici, vous voyez une explication, c'est que quand vous avez ces mouvements auto-renforçants, où les gens suivent une certaine tendance, ça peut engendrer des mouvements beaucoup plus importants, et donc les événements qui se reproduisent beaucoup plus souvent que prévu par la théorie standard. Et si vous regardez les bulles, quand les prix augmentent beaucoup, ça correspond aux périodes où il y a beaucoup de chartistes, beaucoup de gens qui suivent la tendance et ne regardent plus les fondamentaux. Donc, je suis arrivé à la conclusion, j'espère que tu vas me pardonner, Donc la théorie standard considère l'économie comme une collection d'individus isolés faisant des choix optimaux. Encore une fois, chaque fois je dis standard, il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines et des centaines d'économistes qui ne sont pas dans cette petite boîte aussi étroite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi aux idées que je vous ai présentées. Mais ça, c'est, disons, la caricature du modèle économique. Mais si on a une vision de l'économie, comme je vous ai suggéré, comme un système complexe, ça change notre perspective et nous permet d'expliquer des phénomènes qui n'ont pas d'explication naturelle par la théorie standard. Cette vision, quand même, n'est pas moins rigoureuse pour autant. Et donc, il faudrait recentrer notre théorie sur les interactions entre les individus et leur façon à penser, agir à ces interactions, et plutôt que de considérer que ces interactions sont une imperfection dans le modèle et sont juste des difficultés. Et je pense que ça serait mieux qu'on passe plus de temps en pensant à l'économie comme ça, comme un système, qu'en pensant à ce modèle idéalisé des individus très isolés. Mais combien de temps est-ce qu'il faut pour que toute la profession envisage l'économie comme ça? Bon, il y a une citation là de Max Planck qui dit essentiellement qu'une vérité scientifique nouvelle ne triomphe pas parce que les adversaires à cette opinion sont convaincus et parce qu'à la fois ils voient la lumière, mais plutôt parce que les adversaires meurent et sont remplacés par une nouvelle génération qui est un peu plus ouverte et qui grandissent après. Et enfin, si ce que je vous ai dit a provoqué des réactions, vous pouvez regarder dans un bouquin qui s'appelle Complex Economics, qui est sorti cette année, malheureusement, évidemment, en anglais, mais où certaines des idées que je vous ai présentées sont développées. C'était beaucoup trop cher au départ. Maintenant, c'est disponible en paperback, donc c'est presque un prix abordable. Voilà, je vous remercie. Oui.
Bon, merci, vous avez bien expliqué le comportement des individus de façon collective et vous n'avez pas mis en parallèle les problèmes de crise qui vont changer les comportements, c'est-à-dire pour sortir de cette crise, les comportements de consommation vont être totalement différents. De même, cette crise a son incidence qui repose sur une économie libérale qui fait que laisser toute place au capital et que l'individu n'est absolument pas quantifié en matière financière. Et c'est bien les hommes qui font la richesse et ça, on l'a un petit peu occulté.
Bon, il y a tellement de questions dans votre remarque que c'est difficile. D'abord, je pense qu'une première leçon quand on tire la crise, c'est que ce que vous avez dit, c'est que le comportement des gens est modifié par les circonstances, par la crise, par exemple. Et je pense que vous avez dit, doit être modifié aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi qu'en réaction à la crise, les gens doivent modifier leur comportement. Par exemple, on a remarqué que les gens, maintenant, dans les pays où on était extrêmement en déficit individuellement, tout d'un coup, ces gens épargnent beaucoup plus qu'avant. À court terme, on peut dire, mais ça c'est une très bonne chose parce qu'ils sont beaucoup plus prudents, mais aussi, c'est aussi un problème pour l'économie parce que les gens cessent d'acheter ce que les autres produisent. J'ai rencontré dans l'avion quelqu'un qui est à Detroit et il a dit, mais la région où j'habite est tellement en difficulté que je n'ai pas, j'aurais honte d'acheter une nouvelle voiture parce que une voiture neuve, comme tous mes voisins, risque d'être au chômage demain, parce que General Motors est en grande difficulté, donc je ne pourrais pas acheter. Donc, et je lui ai dit, mais c'est parce que des gens comme toi, qui n'ont aucun risque, parce qu'ils étaient professeurs à l'université, n'achètent plus de voitures, que les autres risquent d'être au chômage. Donc, il y a sûrement d'abord une influence, un changement de comportement. Mais, deuxième critique, c'est pas quelque chose que j'ai traité ici, on pourrait avoir une longue discussion sur ça, c'est que dans un certain sens, notre économie a été dominée par une vision de gain et de mesure de succès qui est loin d'être liée directement aux activités qui sont soi-disant dans les termes normaux, productif. C'est-à-dire qu'on a oublié que la richesse qui est générée à la fin est basée sur quelque chose. Et donc, on a l'impression qu'il y a un genre de casino qui se joue. Et les banques sont justifiées. Leur existence est évidemment justifiée par le fait qu'ils mettent les gens qui veulent emprunter en relation avec des gens qui veulent prêter. Mais est-ce que cette activité-là mérite le transfert de ressources vers ces gens-là? C'est un peu le sens de ce que vous dites. Détacher ces ressources-là des gens de tous les jours, ça c'est un argument qu'on peut très bien développer. Je suis plutôt de votre côté, dans le sens que je trouve qu'on a donné beaucoup trop de place au marché financier. Et en plus, c'est quand même un petit peu agaçant quand on entend dire que quelqu'un justifiait le bonus d'un certain PDG d'une grande banque en disant « mais on paye très bien ces gens-là parce qu'ils prennent des risques importants ». On dit « mais il n'y avait pas de risque parce que quand il y a des difficultés pour la banque, l'État a sauvé la banque ». Donc c'est quand même curieux qu'on justifie les primes qui sont données, etc. Mais on pourrait avoir une longue discussion sur ça, mais je suis d'accord avec vous que dans un certain sens, même la vision, la perception de l'économie qu'on a eue, peut-être ne coïncide pas avec une réalité que beaucoup de gens admettraient. Sauf
le signe noir.
Ah oui. Non, mais je pense que le problème, c'est qu'il y a deux parties à votre question. C'est, est-ce que c'est possible d'anticiper que ce genre de mouvement important, collectif, peut arriver? Et deuxièmement, est-ce que c'est possible de prévoir quand est-ce que ça va arriver? Je pense que la réponse deuxième est non. C'est presque impossible pour nous de prévoir exactement quand est-ce que ce genre d'événement va arriver. Par contre, je pense que notre difficulté, c'est qu'au niveau de certains macroéconomistes, on nie le fait qu'on peut avoir ces grands mouvements collectifs. On pense au système comme si c'était un système tranquille, avec de temps en temps des chocs, mais essentiellement sur un chemin d'équilibre. Donc, la réponse à votre question est oui, il faut avoir une vision de l'organisation de ce système, et on peut quand même regarder les symptômes. Comme je vous ai dit, les réseaux qui deviennent fragiles. Et ça, c'est une chose qui est, aux États-Unis, devenue extrêmement controversielle parce qu'on a deux possibilités. On dit, mais ces gens se sont comportés d'une façon pas du tout correcte, donc on va mettre en place un système de règles qu'on va définir soigneusement et on va avoir des gendarmes qui vont vérifier que les gens respectent ces règles. D'autres possibilités, non. Parce que le comportement des gens s'adapte tout le temps. Ils sont toujours en train de, le système est toujours en train de s'organiser. Donc, on doit avoir un genre de système de régulation qui est réactif, qui voit ce qui arrive et qui essaie de réagir tout le temps et qui n'anticipe pas auparavant avec des règles fixes. Évidemment, les gens sur le marché détestent ça parce qu'ils ne veulent pas avoir une autorité qui est là en train de réagir à ce qu'ils font. Et donc, mais c'est... Je pense que le deuxième est nécessaire parce qu'on n'est pas capable d'anticiper auparavant l'évolution exacte du système. Donc, on n'est pas capable d'anticiper correctement, de prévoir, mais on peut quand même admettre que ces possibilités existent et qu'on doit quand même essayer de voir les symptômes de cette fragilité, par exemple, cet éclatement des bulles. Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de des modèles physiques qu'on utilise couramment dans la physique des interactions en particulier, sachant que depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a des physiciens qui se sont intéressés aux modèles économiques et qui ont été plus ou moins, disons, un peu rejetés par la communauté des économistes. Et le deuxième point, c'est ces modèles actuellement peuvent être, me semble, utiles parce que on a des données statistiques maintenant sur un très grand nombre d'années et un très grand nombre de données qui peuvent donner de la valeur justement à ces modèles physiques. Est-ce que vous en pensez?
Bon, première remarque, je dois faire une confession. J'ai travaillé avec deux physiciens à l'école normale, Jean-Pierre Nadal et Gérard Weisbuch, tous les deux en physique statistique. Donc, vous voyez que déjà, je suis corrompu. Donc, il ne faut pas penser que vous parlez à quelqu'un qui est, totalement objectif. Je pense que ces systèmes, on a beaucoup à apprendre de ces systèmes. Et ces systèmes sont conçus d'une façon que le comportement du système n'est pas le comportement de particules individuelles moyennes, donc en général. Donc, je pense que c'est d'abord une très bonne idée d'utiliser ces systèmes. Je ne pense pas non plus qu'on peut dire que le physicien arrive avec ses outils, dit, voilà, je remplace les outils existants. Et je dois admettre, même avec mes copains, que de temps en temps, les physiciens ont tendance à être un petit peu arrogants vis-à-vis des économistes. Les pauvres économistes ne savent pas du tout. On va les montrer. Donc, ça, ce n'est pas une façon de changer une discipline, d'arriver comme à un genre de char qui va tout... Donc, ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, l'économie moderne est quand même fondée sur la physique. C'est-à-dire, l'économie, Walras est le grand fondateur du modèle moderne d'équilibre général, et lui a admis clairement que le modèle était basé sur la mécanique statique du 19e siècle. Et le seul problème, je pense, que comme quelqu'un a dit, c'est que donc, dans le 20e siècle, on a perfectionné un modèle de l'économie basé sur la physique du 19e. Peut-être dans le 20e, 21e siècle, on pourrait utiliser la physique du 20e. Et donc, je pense qu'on a intérêt à incorporer les idées. Et ça permet aussi de voir ces systèmes qui ne sont pas toujours en équilibre non plus. Donc, de voir le comportement hors équilibre, non linéaire, etc. Donc, il y a beaucoup de leçons à apprendre. Donc, je pense qu'il faut adopter ça, mais il ne faut pas non plus dire que avec ces modèles-là, je vais simplement les imposer et on va résoudre le problème. Il faut faire ça d'une façon un peu plus intelligente, un peu plus subtile. Mais je pense qu'on a des leçons importantes à apprendre de ces modèles-là. Donc, je suis entièrement pour, mais pas d'une façon naïve et brutale.
On vient de mettre en service au CNRS un calculateur, un ordinateur qui calculera en quelques microsecondes des chiffres les statistiques.
Oui.
De faire des projections ou des simulations. Mais comme toute simulation, quand on arrive à la réalité, on n'est pas forcément dans la cible.
Oui, mais par exemple, les modèles du climat sont un exemple extraordinaire. C'est que Ken Arrow, qui est un grand économiste, qui était dans le service météorologique pendant la guerre, récemment, c'est un prix Nobel de l'économie, récemment il a dit, mais à mon époque, on avait quelques bateaux qui transmettaient le signal des observations. Maintenant, on a des sites partout dans le monde qui transmettent tout et tout est calculé instantanément. À l'époque, on n'était pas capable de prévoir plus que 2 jours à l'avance. Maintenant, on arrive à 3. Donc, avec tous les moyens possibles, quand même, ces modèles sont tellement complexes, ces modèles du climat. C'est vraiment un exemple d'un système très complexe, non linéaire. Et on voit que même avec des outils de calcul modernes, on a des difficultés à prévoir et calculer avec ça. Et j'ajouterais qu'une autre chose, c'est qu'on a toujours pensé que c'est la théorie économique qui était défaillante pour la crise. Mais quelqu'un récemment, Bill Barnett, a montré assez clairement que les statistiques sur lesquelles la plupart de l'analyse macroéconomique était basée étaient loin d'être parfaites, et même très très mauvaises. Et c'est même au point où le gouvernement américain a caché le fait, savait que les statistiques n'étaient pas bonnes, mais parce qu'on calculait de certaines façons, continue à utiliser les statistiques, même à l'époque moderne, où on sait que ces statistiques n'étaient pas les données utiles, en réalité. Et donc, encore une fois, on a beaucoup de chemin à faire, point de vue données et point de vue modèle, statistique, mais je pense qu'il faut être très modeste devant tout ça, essayer de faire un peu de progrès, utilisant les connaissances de tout le monde, utilisant les connaissances aussi des psychologues pour le comportement des individus, utilisant les comportements des sociologues pour l'interaction entre les individus, utilisons les connaissances des physiciens pour nous aider à construire des modèles qui sont plus adaptés à ces systèmes complexes. Et au fur et à mesure, on va faire un petit peu d'avance, pas nécessairement des grands pas. Mais...
Finalement, quel est le bon niveau d'observation? Est-ce que c'est le niveau du comportement? Est-ce que c'est le niveau du réseau, par exemple? À la limite, peu importe la psychologie des individus, ce qui compte, c'est les interactions. Ou est-ce que, pour mieux comprendre ces interactions, on a aussi besoin de comprendre la psychologie de l'individu? Quel est le bon niveau d'observation?
Oui, mais je pense que, Marie-Claire, malheureusement, je n'ai pas une réponse claire à ça. Je pense que pour certaines choses, Werner Hildermann, mon co-auteur, on a travaillé sur l'équilibre général pendant longtemps. Et lui, après, il a dit, mais je vais laisser tomber toute supposition de maximisation au niveau individuel. Je vais travailler avec la distribution des comportements des individus. Je vais voir ce que je peux faire simplement en regardant la distribution, par exemple, des consommations, etc., plutôt que de regarder au niveau individuel exactement ce que l'individu fait. Mais par contre, pour beaucoup de choses, je pense qu'on est aussi, on ne peut pas exclure le fait que le type fait des choix, a des règles, et de comprendre ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas un niveau naturel. C'est-à-dire que pour beaucoup de choses, on est obligé d'agréger, mais il ne faut pas penser non plus que les données agrégées correspondent à des individus, mais on ne peut pas non plus ignorer le fait que les choix agrégés sont aussi l'agrégation des choix des individus. Donc, je ne vois pas un niveau naturel pour certains problèmes en macroéconomie. Je pense que de temps en temps, ce serait mieux de simplement rester au niveau qu'on avait en macroéconomie avant la révolution scientifique, où on disait, mais je vais essayer simplement de comprendre la relation entre les grandes variables agrégées. Je vais oublier tout ce qui se passe en dessous. Et peut-être pour certains phénomènes, c'est très bien. Mais c'est un peu comme si on regarde une horloge et on dit, mais j'ai aucun besoin de regarder derrière pour voir le mécanisme, c'est très compliqué, je peux prévoir parfaitement le mouvement des aiguilles, mais si jamais l'horloge tombe en panne, on est en difficulté si on n'a jamais regardé derrière. Donc je pense que on doit avoir un mélange des deux, et ça dépend du problème auquel on s'adresse, à quel niveau on se situe. Excusez-moi, madame.
Ce que vous disiez sur le comportement un peu mouton de Panurge.
Oui.
Donc, quelqu'un a dit que ça, c'était bien, donc...
Oui.
Voilà. Ça m'interpelle sur deux points. Est-ce que les gourous, comme vous évoquiez, les analystes, moi, j'entends souvent dire que telle action a baissé parce que l'analyste de chez Natixis, Goldman Sachs, quoi a dit. Bon. Donc, est-ce qu'ils étaient aussi importants au début du XXe siècle, première chose. Et puis, deuxièmement, où est-ce que vous mettez le problème qu'on se pose avec cette crise de la morale? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui suivent ne sont pas capables d'imaginer ou ne sont pas un peu prudents sur le fait que celui qui va dire quelque chose a peut-être des intentions de nuire? On raconte par exemple qu'actuellement, enfin en tout cas depuis le début de la crise grecque, irlandaise, etc., il y en a qui, alors je ne sais pas, il y en a qui veulent la mort de l'euro. Vous voyez, il y a cette histoire de volonté. Parce que quand vous nous comparez à des fourmis, ben, je ne pense pas que les fourmis soient méchantes. Il y a des mauvaises intentions.
Oui, donc, première chose, est-ce que il y a toujours eu des gens qui ont été suivis dans le sens que, et souvent parce qu'ils ont eu un certain succès, et le succès était souvent dû au fait qu'ils étaient suivis. Donc il y a un genre de boucle automatique, mais souvent les gens passent aussi de mode. C'est-à-dire que des gens que tout le monde écoutait il y a 10 ans ne sont pas les mêmes gens que maintenant. Je pense par exemple à George Soros, qui a, dans cette sens, fait une attaque contre le livre au moment de l'effondrement du système monétaire européen à l'époque. Et Donc beaucoup de gens l'ont suivi. Ils n'auraient pas réussi tout seul à faire ça, mais le fait qu'il y avait beaucoup de gens derrière lui. Donc vous avez aussi raison que les gens motivés par quelque chose peuvent essayer d'engendrer un mouvement dans une certaine direction. Et s'ils sont suffisamment suivis, ils peuvent réussir. Mais ça, c'est quelque chose qui a existé depuis très longtemps. Ce n'est pas nécessairement une attaque, mais une spéculation contre une certaine monnaie ou une spéculation sur quelque chose, sur une mine d'or. Les gens commencent à répondre à une rumeur concernant les découvertes de telle et telle chose. Et donc, les gens commencent à acheter. Donc, on a engendré depuis très longtemps, il y avait les bulles de South Sea Bubble, etc., les bulles des prix des tulipes, etc. Et même à l'époque de Romain, il y avait une bulle sur le rouget. C'est absurde, mais si vous regardez Hérodotus, etc., Hérodote, pardon, vous allez voir qu'il dit, mais le prix de ce poisson est tout à fait absurde, ça n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque de ce poisson. C'est devenu un phénomène de mode, c'est scandaleux, etc. Et finalement, l'empereur a imposé une taxe sur ce poisson pour diminuer le prix. Donc, depuis très longtemps, on a eu ce genre de mode, de spéculation, et une fois que les gens suivent, ça se renforce. Là, vous avez une question de moralité. Mais ça c'est une très grande question. Est-ce que c'est moral? Soros vous dit, non, mais moi j'ai prévu que le livre pouvait pas survivre. Donc, j'ai simplement, comme quelqu'un qui investit raisonnablement, j'ai simplement suivi mes anticipations et donc j'ai mis mon argent dans cette direction-là. Mais est-ce que c'est la même chose d'anticiper correctement ou de mener une genre de spéculation? Est-ce que Soros était au courant du fait qu'il était en train d'amener les gens avec lui? Sans doute, oui, si vous regardez son dernier livre, il parle de la réflexivité. Il a cette idée en tête d'effet de retour. C'est lui fait quelque chose, les autres vont faire la même chose. Donc il y a une genre de spirale vers quelque chose. Est-ce que c'est moral ou non? Si ça déstabilise, on dirait, je pense, étant donné les conséquences de la crise aujourd'hui, je suis un peu choqué par le fait que certains de mes collègues disent, mais là, on est pas mal sortis quand même. La crise n'était pas aussi grave que ça. Mais on oublie que le taux de chômage aux États-Unis est passé de 5% à 10%. Ce sont des millions de gens qui sont dans le chômage. Et donc, de dire qu'on est sortis, ça me semble de passer un peu à côté de la réalité. Donc, je ne sais pas si c'est une question de moralité, mais une question de sensibilité aux événements réels, et peut-être quelque chose qui manque chez l'analyse de certains gens. On dit que c'est rationnel pour lui d'avoir fait ça, mais les conséquences sont quand même très importantes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais comme vous voyez... Non, mais comme vous dites qu'il y a une déconnexion, je pense que la leçon, peut-être, c'est le contraire. C'est-à-dire, malheureusement, il y a une connexion très forte entre les marchés financiers, ce qui arrive, et les conséquences réelles. C'est-à-dire que la crise actuelle, ce qui est grave, ce n'est pas tellement le problème financier, c'est plutôt le problème réel de l'évolution de l'économie. Donc, moi, je dirais que c'est ce qu'on... Et ça, c'est un grand problème avec les modèles macroéconomiques, c'est qu'on n'a pas suffisamment intégré le marché financier dans le système total de l'économie. Il faut avoir les deux ensemble. Parce que le problème, c'est que s'il n'y avait pas de conséquences dans l'économie réelle de ces grands mouvements sur le marché financier, ça serait perturbant, peut-être dans le sens qu'on n'aime pas cette volatilité, mais... Ce qui est grave, c'est qu'il y a des conséquences réelles en termes de production, en termes de chômage, etc. Donc, je pense que c'est plutôt le contraire, c'est que malheureusement, le lien entre les deux est très réel et on ne regarde que, mais là je vous joins, c'est, on a tendance à regarder le comportement de la bourse et les marchés financiers, mais maintenant on semble être un peu sorti de cette crise, mais on n'est pas sorti du point de vue de l'économie réelle.
Au niveau de la bourse, comme ancien banquier, je puis dire que les banques ont découragé le petit épargnant pour intervenir directement en bourse. Ils ont fait transférer cette épargne dans des fonds de placement. Vous étiez pendant 8 ans. Aujourd'hui, ces banques peut-être vont sauter avec la crise irlandaise, la crise espagnole et tout, et ils ont notre argent qui leur sert d'appui. Et tout ceci peut s'effondrer comme château de cartes.
Oui, mais qu'est-ce que je peux vous dire?
Voilà. C'est le système, c'est la perversité dans le système.
Oui, mais...
Ils ont une position dominante et ils ont utilisé l'argent des épargnants pour refinancer toutes les bêtises qu'ils ont faites.
Oui, non, mais encore une fois, je suis...
Les banques irlandaises qui sont d'ailleurs aussi bien financées par les banques anglaises à la City.
Oui, mais encore une fois...
Comme vous l'avez très bien montré en l'interprétation, qui fait qu'un jour ou l'autre, les grandes banques françaises se retrouveront dans de mauvaises situations.
Bien sûr, parce qu'ils prennent des actes. Non, mais il y a deux choses là. Je pense que c'était relativement normal pour le petit de dire que je préfère placer mon argent dans un fonds qui est un peu diversifié, parce que ça protège moins. Évidemment, ça, c'est le message des banques. Mais ceci ne justifie pas un comportement irresponsable de prendre beaucoup d'actifs, qui étaient ce qu'on appelle maintenant des actifs toxiques, sans regarder du tout le contenu de ces actifs. Et ça, c'est vraiment un comportement qui n'a jamais été puni et qui est quand même irresponsable. À un moment donné, juste pour vous donner un exemple, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un genre de phénomène dans le marché où les banques achetaient ces dérivés, les produits dérivés très compliqués, qui étaient composés de prêts immobiliers. Mais il y avait tellement de prêts dans un instrument qu'on ne pouvait pas, ou c'était très cher, à essayer de regarder la vraie situation de ces actifs. Donc, on cessait de regarder. Et si tout le monde ne regarde pas, ces actifs sont transférés d'un à l'autre sans qu'il y ait des conséquences énormes. Mais il faut simplement quelques gens qui commencent, quand la situation s'empire, commencent à regarder et voir le contenu. Donc, eux, tout d'un coup, ils commencent à regarder. Donc, les autres sont obligés à regarder aussi. Et tout d'un coup, tout devient évident et on voit ce qui a été fait. Mais pendant un certain temps, ce truc marche automatiquement sans qu'il y ait un regard de l'extérieur pour voir ce qui arrive. Donc, encore une fois, ce n'était pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais je suis d'accord avec vous que... Et ce qui est pire pour vous, c'est qu'après coup, non seulement est-ce qu'on dit, mais désolé, le fonds de placement a marché assez mal, mais en plus, on va vous dire, mais vous allez contribuer à, maintenant ou plus tard, au redressement de ces banques. Et donc, vous avez une sorte de double punition, parce qu'à la fois, vous avez perdu, si vous êtes aux États-Unis, dans votre fonds de pension, mais aussi parce que c'est l'État qui a payé pour sauver les banques, qui sont maintenant, évidemment, considérées comme les gens qu'il faut regarder. On dit qu'il faut absolument serrer la ceinture, parce que sinon, les marchés vont être pas contents avec nous. Mais c'est les mêmes marchés qu'il y a 2 ans, on était en train de sauver. Donc, j'ai beaucoup de sympathie pour votre point de vue.
J'espère qu'un jour, nous nous retrouverons chez Fonds au Ballon des Offres, au Hôtel Rouget.